Et donc là, aujourd'hui, nous sommes sur l'action sociale dans le cadre aussi, on l'a rappelé ce matin, du Dimanche des Solidarités qui est initié et proposé par notre fédération d'Église. Alors, il y a des discours aux accents proprement prophétiques. On en a entendu un il y a quelques mois, je crois, hein, quand j'avais passé un discours de Martin Luther King. Aujourd'hui, je vous en propose un autre. Et il n'y a pas le son.
Assiette, il y a le son. Laissant les assiettes des autres vides et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.
Je l'arrête ici. Vous retrouvez ça sur YouTube facilement, ce genre de discours. Souvenez-vous des pauvres. Souvenez-vous des pauvres. Ce n'est pas d'abord l'abbé Pierre qui le dit, même s'il le dit fort bien. Cette phrase, cette injonction a été celle des apôtres Pierre, Jacques et Jean quand Paul et Barnabé sont venus à eux pour leur dire qu'ils comptaient aller évangéliser les nations. Vous pouvez lire ça en Galates 2, verset 10. La seule consigne qu'ils leur ont donnée, c'est « Souvenez-vous des pauvres ». Et pourtant, quelle défiance, n'est-ce pas? Quelle défiance dans le milieu évangélique durant des décennies, c'est moins vrai aujourd'hui, heureusement, envers l'action sociale dans l'Église. C'est pas grave, hop, ça tombera pas plus bas. Une défiance qui perdure encore parfois, parce que nous avons cette crainte que l'action sociale nous détourne de ce que nous considérons avec raison comme l'essentiel, qui est l'annonce de l'Évangile. Oui, penseront certains, nous perdons notre temps, nous perdons notre énergie lorsque nous tendons un sandwich pour nourrir le corps de celui dont l'âme est perdue. Nous perdons notre temps à moins que nous ne soyons passés à côté d'une clé de lecture qui change tout. Et je vous propose d'aller la lire maintenant. Mais avant, je vais prier comme à mon habitude. Seigneur, alors que nous nous apprêtons à ouvrir ta parole, nous nous rappelons que nous avons besoin de toi pour la comprendre dans toute sa richesse, dans toute sa profondeur, et surtout pour la comprendre spirituellement, pour la comprendre avec une compréhension qui nous vient de toi, pas seulement de notre tête, de notre intellect, de notre manière de l'étudier, de l'approcher, Seigneur. Nous savons que nous avons besoin de ton Saint-Esprit, et nous en appelons à lui maintenant pour qu'il vienne illuminer notre lecture. Amen. Alors, ce texte, on le trouve dans le livre de l'Exode. Je vous l'affiche ici si vous n'avez pas votre Bible, sinon vous pouvez me suivre dans votre Bible, et nous allons lire les versets 1 à 6. Où il nous est dit, Exode 19, versets 1 à 6, « Le troisième mois, à compter de leur sortie d'Égypte, jour pour jour, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela de la montagne et lui dit, « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob, ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir à moi. Maintenant, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux Israélites. Ce texte nous relate un moment historique dans l'histoire d'Israël, et même si je vous accorde que ça ne saute pas aux yeux, il est à relier, comme bien des textes d'ailleurs dans la Bible, au drame qui s'est joué en Genèse 3 avec la chute et l'entrée du péché dans le monde. Parce qu'il y a le monde tel que Dieu l'a voulu, et puis il y a le monde tel que l'humain l'a rendu, en se détournant de Dieu. L'entrée du péché dans le monde a non seulement mis à mal la relation de l'homme avec Dieu, ça nous le savons bien, mais il a aussi mis à mal la relation de l'homme avec son prochain, je crois que nous le savons bien aussi, quand nous regardons un peu les actualités. Et finalement, il a également mis à mal sa relation avec la création, ça me semble assez visible. Le péché a tout affecté. Le monde dans lequel nous vivons est un monde déchu. Mais il y a un mais. Et ce mais, c'est que dans ce monde déchu, Dieu s'est constitué un peuple. Et dès le départ, dès l'appel d'Abraham, à partir de qui Dieu va commencer à se constituer ce peuple, il est question d'une mission particulière pour le peuple de Dieu. En Genèse 12, nous lisons ceci. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. » Le peuple qui va naître à partir d'Abraham est appelé à être une bénédiction pour les nations. Et c'est pas tout. Un peu plus tard, Dieu va faire tomber son jugement sur la ville de Sodome à cause, nous dit Genèse 18, des cris qui s'élèvent contre cette ville du fait de son péché. Et au milieu de ces nations, dont Sodome fait partie, mais évidemment il y en a beaucoup d'autres, dans lesquelles des abominations sont pratiquées, des viols, des sacrifices d'enfants, des cultes rendus à des idoles réclamant des sacrifices humains, on découvre que le peuple de Dieu va avoir une mission encore un peu plus spécifique. Je ne sais plus si j'ai mis le texte. Oui, il est là. Avant d'intervenir sur la ville de Sodome, Dieu dit ceci, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham va devenir une nation grande et forte et que toutes les nations de la terre se béniront par lui ? Car je l'ai distingué, afin qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison après lui de garder la voie du Seigneur en agissant selon la justice et l'équité. » Et on commence à voir ici un peu le fondement de l'action sociale dans l'Église. On commence à voir ici que l'action sociale, ça n'est pas une activité gentille pour être plus humaniste que les humanistes. L'action sociale, c'est agir au milieu d'un monde corrompu selon la justice et l'équité de Dieu. Abraham a été distingué, c'est-à-dire qu'il a été mis à part pour qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison de vivre selon d'autres valeurs que celles du monde environnant. Il y a le monde corrompu et il y a ce peuple qui est appelé à autre chose. L'action sociale, c'est vivre les valeurs du royaume de Dieu au milieu d'un monde qui vit selon les valeurs du prince de ce monde. Alors quand je dis le prince de ce monde, en réalité, Satan délègue bien volontiers cette sale besogne. Il la délègue à des démons, c'est-à-dire à des anges déchus qui se font passer pour des dieux et devant lesquels les humains se prosternent sans aucun scrupule. Ce sont des idoles. Dans l'Ancien Testament, l'idole par excellence était Baal. Et aujourd'hui, Jésus nous a prévenus dans le Nouveau Testament, l'idole devant laquelle le monde se prosterne, l'idole qui est mise en face de Dieu, en opposition à Dieu, c'est Mammon, l'idole de l'argent qui régente très largement les activités humaines. À un point d'ailleurs qui n'en finit pas de nous épouvanter, voici une info qui date de mercredi dernier, où nous lisons qu'un président d'une antenne locale d'Emmaüs a détourné 460 000 euros en 3 ans. Pour faire quoi ? Eh bien, Porsche, lunettes de soleil Bulgarie, je ne sais même pas ce que c'est, mais apparemment c'est bien, tablette Samsung, iPhone 14, chaussures Louboutin, PlayStation, voyage à Las Vegas, restaurant luxueux avec sa maîtresse. Comme il résonne ce discours de l'abbé Pierre, fondateur d'Emmaüs, qu'on a entendu tout à l'heure. Alors, on va un peu plus loin dans le temps. On est maintenant avec Moïse. Le peuple est esclave en Égypte. Dieu le délivre miraculeusement, lui faisant traverser la mer Rouge. Le peuple est libre, mais le peuple râle. Il râle parce qu'il trouve que sa condition est pire que celle qu'il vivait en esclavage. Et en un sens, ne lui jetons pas trop vite la pierre, parce que je crois qu'on peut le comprendre. À ce peuple, on lui a parlé de la terre promise, qui est donc... Alors, je ne sais pas si je peux... Il y a un truc qui permet de... Non ? En haut ? Ça ? Ah oui, bien. Donc, la terre promise, elle est là. Ils sortent de par là. On leur dit, on va aller là. Et ça, c'est la route qu'ils font. Voilà. Ça doit être un petit peu frustrant de se retrouver ici, au mont Sinaï, quand on vous a annoncé que c'est là-haut que vous devez aller. Il y a de quoi, en tout cas, être décontenancé. Il y a sans doute de quoi râler un petit peu. Et cependant, c'est bien ce que Dieu avait annoncé à Moïse. En Exode 3, Moïse dit à Dieu, au moment de son appel, il lui dit « Mais qui suis-je, moi, pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Et Dieu dit « Je serai avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu. » Raté. Sur cette montagne. Toujours est-il que le peuple, maintenant, est constitué. C'est plus juste Abraham, il y a un peuple qui existe ici, et le Seigneur convoque l'assemblée, convoque ce peuple et lui fait le don de la loi. Et c'est là qu'intervient notre texte d'Exode 19 que nous avons lu tout à l'heure et qui se termine par ces paroles « Vous serez pour moi, dit Dieu, un royaume de prêtres et une nation sainte ». Par vocation et par opposition aux nations environnantes, Israël est chargé d'offrir des sacrifices au Dieu créateur du ciel et de la terre, au Dieu unique, contrairement aux peuples idolâtres alentour. Et pour ça, pour cette tâche-là, il est mis à part. Israël est une nation sainte. Sainte, ça ne veut pas dire parfait. Je crois que quand on lit la Bible, on s'en rend compte. Ça veut dire mis à part, séparé. Pourquoi faire ? Est-ce que c'est pour s'isoler ? Est-ce que c'est pour créer une espèce de communauté fermée qui ne voudrait rien avoir à faire avec le monde qui l'entoure ? Eh bien, non. Ce peuple a une mission. Le prophète Ésaïe éclaire, je trouve, de manière assez somptueuse, la raison de cette séparation. Il nous parle d'un serviteur. Et voici ce qu'il dit de ce serviteur. « Ainsi parle Dieu, le Seigneur, celui qui crée le ciel et qui le déploie, celui qui étale la terre et ses productions, celui qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. » On se dit, c'est une sacrée introduction. Encore une fois, on a un contraste ici pour dire, ce n'est pas un Dieu parmi les autres, ce n'est pas une idole parmi les autres. Le Dieu qui va parler là, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui a tout créé, le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve. Et ce Dieu l'a dit, « Moi, le Seigneur, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main. Je te préserve pour faire de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la forteresse le prisonnier et de la maison de détention les habitants des ténèbres. » Vous l'avez entendu, je te préserve pour faire de toi l'alliance du peuple et la lumière des nations. Ce serviteur, c'est le Messie qui doit venir, mais ce Messie ne vient rien accomplir qui n'ait d'abord été la vocation du peuple de Dieu lui-même. La justice de Dieu doit briller au sein du peuple de Dieu, pour lui-même d'abord, mais aussi pour éclairer les nations alentour. Éclairer ces nations alentour qui vivent dans les ténèbres, empêtrées qu'elles le sont dans le péché qui est entré dans le monde depuis la chute. Et donc, l'Ancien Testament est truffé de lois sociales selon lesquelles le peuple est supposé vivre, des lois qui protègent les plus vulnérables, l'immigré, l'orphelin, la veuve, des lois qui invitent à ne pas donner de faux témoignages, à ne pas se laisser corrompre par des cadeaux, à ne pas surexploiter la terre, à laisser de la nourriture pour l'étranger et pour le pauvre, à considérer l'étranger comme un natif né dans le pays et à l'aimer comme nous-mêmes, c'est le Lévitique qui le dit au chapitre 19, à remettre régulièrement leurs dettes à ses débiteurs, à libérer les esclaves, ça c'est Lévitique 25, bref, à pratiquer la justice du royaume de Dieu plutôt que l'injustice du monde. Si le discours que nous avons entendu de l'abbé Pierre tout à l'heure a un ton prophétique, c'est parce qu'il est dans la ligne droite des prophètes de l'Ancien Testament qui dénonçaient l'injustice avec force. Écoutons Amos qui dit « Écoutez, écoutez vous qui harcelez le pauvre et qui supprimez les déshérités du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, que nous vendions le grain ? Quand le sabbat finira-t-il, que nous ouvrions les sacs de blé ? Nous diminuerons les fats, nous augmenterons les prix, nous fausserons les balances pour tromper. Nous achèterons les petites gens pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales, et nous vendrons même le déchet du blé. Le Seigneur l'a juré par l'orgueil de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. » Écoutons Ésaïe. « Malheur, malheur pour ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Il n'y a plus de place que pour vous seuls dans le pays. Voici le serment du Seigneur des armées, tel que je l'ai entendu. Sans faute, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. » Écoutons maintenant Jérémie, quand il s'adresse au roi lui-même, au roi de Juda. « Écoute la parole du Seigneur, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David. Toi, les gens de ta cour, de ton peuple, qui entrez par ses portes, ainsi parle le Seigneur. Agissez selon l'équité et la justice. Délivrez de la main de l'oppresseur celui qu'on dépouille. N'exploitez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez pas de sang innocent en ce lieu. » Car si vraiment vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, les gens de leur cour et de leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, déclaration du Seigneur, cette maison deviendra une ruine. Elles sont où, les voix prophétiques d'aujourd'hui parmi le peuple de Dieu ? Elles sont où ces voix qui dénoncent l'injustice et qui montrent aux nations la voie du Seigneur ? Elles sont où ces voix qui montrent ce qu'est l'économie du royaume de Dieu à un monde qui vit selon l'économie de Mammon ? Eh bien, je vais vous le dire modestement, elles sont à leur mesure à la cantine savoyarde, à l'action familiale protestante de Savoie, à l'école de la Pépinière, au secours protestant, au vestiaire social après la pluie et dans toutes ces œuvres qui essaient de montrer à ce monde quelles sont les valeurs du royaume de Dieu. Alors j'ai évidemment beaucoup navigué dans l'Ancien Testament, mais bien sûr, si nous avons été greffés au tronc d'Israël, et nous l'avons été, alors nous ne sommes pas en reste. Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Jésus s'est lui-même approché des plus petits, a pris soin de ceux qui étaient méprisés. Jésus est celui qui a dit « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondent « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir ?» Et le roi leur répond « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ses plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Je vais terminer par une histoire baptisto-baptiste. Une histoire de conflit entre les terrils du nord de la France et le romarin et les cigales des terres sévenoles. Au tout début du XXe siècle, deux figures du petit monde baptiste, parce qu'il est petit à ce moment-là, en France en tout cas, s'affrontent. À votre gauche, vous avez Philémon Vincent, qui est un ch'ti de son état, intellectuel remarquable, de caractère introverti mais brillant prédicateur, homme économe, d'aucuns diraient austère. À votre droite, vous avez Ruben Sayens, Autodidacte, Cévenol, au cursus scolaire modeste, mais amoureux de la poésie, on a des cantiques qui ont été écrits par lui, et dont le flot de paroles n'avait d'égal que son caractère imposant, c'était de fait un extraverti. Le sujet du conflit, c'était la structuration du baptisme français. Outre des caractères opposés, ils évoluent également dans des milieux très différents. Philémon Vincent, lui, est dans le nord de la France, il est en terre catholique, et il opte pour une évangélisation pragmatique. Il faut prêcher l'évangile et le baptême par immersion, et ma foi, si ces deux conditions sont accueillies et acceptées par ceux qui écoutent, c'est bien suffisant. Ruben Sayens, lui, il est dans les Cévennes. Ses voisins ne sont pas catholiques, ils sont protestants. Et pour lui, il faut se distinguer très fort des luthériens et des calvinistes, et donc il appuie de tout son poids sur les spécificités baptistes. Et les deux hommes ne vont pas s'entendre. L'un prône un baptisme plus ouvert, c'est Philémon Vincent, en dialogue avec les autres confessions, et l'autre, un baptisme plus fondamentaliste et identitaire. Et c'est comme ça que, sous l'influence de Philémon Vincent, va naître la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France, dont notre Église fait partie, tandis que sous l'influence de Ruben Sayens va naître l'Association baptiste. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que l'action sociale a aussi été dans l'histoire un signe distinctif de notre fédération. Dans l'entre-deux-guerres, la fédération baptiste va en effet initier une œuvre sociale d'envergure dont on voit encore les fruits aujourd'hui, qui aura abouti d'ailleurs, je crois que c'est en 1945 ou en 1946, à la création de l'ABEJE dont on a parlé tout à l'heure. Dans notre fédération, il y a par exemple une ABEJE, l'ABEJE de Lille, qui emploie plus de 200 personnes. Pour donner un peu un ordre d'idée de ce que peut être une ABEJE aussi. Côté association baptiste, les choses ont tardé davantage concernant l'action sociale, précisément pour ce que je disais en introduction, l'action sociale lui apparaissait, à l'époque en tout cas, assez suspecte, parce qu'elle craignait que l'annonce de l'Évangile passe au second plan au profit de préoccupations séculières. Et si j'en parle, ce n'est pas pour distribuer des bons points ou des mauvais points. D'ailleurs, les faits n'ont pas toujours donné tort à l'association baptiste. Une œuvre chrétienne qui se sécularise au point de n'avoir plus de chrétiens parmi ses dirigeants, c'est une histoire maintes fois observée, et même de grandes organisations comme Emmaüs peuvent finir par voir l'un de leurs cadres garer tranquillement sa Porsche devant le portrait de l'abbé Pierre, sans scrupule. Si j'en parle, c'est pas pour ça. Si j'en parle, c'est simplement pour expliquer que l'action sociale dans notre fédération est inscrite dans son ADN, dès les débuts, elle fait partie d'une identité assumée. Quant à notre Église, à nous, ici, à Chambéry, j'observe, et là, vous aurez le droit de venir me voir à la fin si j'ai mal observé. Il y a eu pendant des années les camps de Cayenne, une très belle œuvre qui a béni des générations d'enfants et qui a rayonné et fait rayonner notre Église, j'en suis témoin. Je peux vous dire que tous les pasteurs de plus de 50 ans à la Fédération baptiste, et je crois que je n'exagère absolument pas, connaissent notre Église du fait des camps de Cayenne, ou parce qu'ils y ont participé, ou parce qu'ils ont été là-bas comme moniteurs, enfin peu importe, en tout cas, ils connaissent tous ces camps. Moins glorieusement, peut-être, il y a aussi eu des gens parmi nous qui ont eu à cœur de monter une action sociale, mais qui n'ont pas trouvé dans notre Église le soutien qu'ils espéraient. Certains sont partis, déçus, d'autres sont restés, ils sont encore là parmi nous, mais tous ceux auxquels je pense ont poursuivi l'appel que le Seigneur avait mis dans leur cœur, et ces œuvres existent bel et bien aujourd'hui. Et beaucoup d'entre vous sont impliqués dans ces œuvres qui sont nées dans le cœur de plusieurs d'entre nous. Ce qui me fait dire ceci, notre Église, fidèle à l'ADN de notre fédération, a effectivement un cœur pour l'action sociale, est effectivement riche d'œuvres bonnes que le Seigneur a préparées d'avance et dans lesquelles certains marchent déjà et d'autres peut-être vont marcher bientôt. Parce que nous allons maintenant vous présenter quelques-unes de ces œuvres.